Bonjour, bonsoir les amis, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Une fois de plus, confiné à mon domicile comme mesure préventive pour isoler le virus de la Covid-19, qui vous parle depuis Buenos Aires, Eric Domergue, je renoue le contact avec vous dans ce nouveau programme de RAE, l'Argentine vers le monde en 8 langues, avec la production de Sylvana Avellaneda, Julien Cortés, responsable du site web, sous la direction de Adrien Corol. Jour à jour, nos auditeurs peuvent trouver le rapport officiel sur la santé présenté par le gouvernement argentin sur notre site web www.rae.com.ar. Y figurent également les horaires de transmission par ondes courtes, alors que en streaming, quotidiennement, vous avez accès à la programmation commune de Radio Nationale Argentine sur la plupart des signaux AM, FM et RAE. Et ne manquez pas d'envoyer vos rapports de réception à qslrae@gmail.com. En outre, je vous invite à visiter la chaîne YouTube de RAE, l'Argentine vers le monde, où vous pouvez trouver une partie des productions et des contenus réalisés par toute l'équipe qui constitue le signal international des médias publics en Argentine. Maintenant, place à l'actualité. Cette semaine a débuté le test du sérum équin chez les patients atteints de Covid-19, en cours de développement par des scientifiques et des médecins argentins dans la ville de La Plata, capitale de la province de Buenos Aires. Les tests et les protocoles d'application sont soutenus par les organismes de contrôle sanitaire argentins. Le sérum équin hyper-immune contre le Covid-19 a été développé par la société Inmunova et il est le premier médicament potentiel entièrement développé en Argentine. Selon la société, il a démontré lors d'essais in vitro la capacité de neutraliser le virus avec une puissance 50 fois supérieure à la moyenne du plasma de personnes convalescentes. Les résultats de ces tests in vitro ont été publiés dans la revue spécialisée Médecine. Le ministère national du développement productif a approuvé un crédit de 30 millions de pesos pour financer ces essais cliniques. Dans cette première étape, les tests sur les patients atteints de coronavirus commenceront au sanatorium Güemes et à l'hôpital Pirovano de la ville de Buenos Aires, à l'hôpital Cuenca Alta de Cañuelas et à l'Institut médical Platense de La Plata, ces deux derniers dans la province de Buenos Aires. Les tests impliquent la participation volontaire de 242 patients adultes atteints d'une maladie modérée à grave causée par une infection au coronavirus. Le sérum super-immune équin recrée la stratégie appliquée pour un vaccin contre l'hépatite B et pour la production d'autres sérums équins hyper-immunes utilisés contre les morsures de serpents et de scorpions, la toxine tétanique ou le botulisme. Le disque Embuelo de Marcelo Balcells, un ami de notre programme et surtout un grand musicien, a été nominé au prix Gardel à la musique en Argentine comme meilleur album d'artiste romantique et mélodique. Pour la première fois, les catégories de prix ne sont pas divisées par sexe masculin ou féminin, mais seulement par style musical. Dans le cadre du confinement, la cérémonie de remise des prix a été annoncée pour le mois d'août avec la possibilité de la modifier en fonction des mesures prises face à la pandémie. Partageons en la ciudad de la furia de Soda Stereo.
Me verás volar por la ciudad de la furia. Donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todo.
Nada cambiará con un aviso de curva. En sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas en la ciudad de la furia.
Dormir al amanecer. entre tus piernas, entre tus piernas.
Sabrás ocultarte bien y desaparecer entre la niebla, entre la niebla.
Un hombre alado extraña la tierra. Me verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos.
Con la luz del sol se derriten tus alas. Solo encuentro en la oscuridad lo que me une
con la ciudad de la furia. Dejarás dormir al amanecer entre tus piernas, entre tus piernas.
Sabrás ocultarte bien y desaparecer entre la niebla, entre la niebla.
Un hombre alado prefiere la noche.
Un hombre alado prefiere la noche.
Un hombre alado prefiere la noche.
L'édition de la Nuit de la Géométrie, dans le cadre de l'exposition Géométrie Sud du Mexique à la Terre de Feu, a réuni en 2019 le mathématicien et député Cédric Villani et l'écrivain argentin Alberto Mangel, membre de l'Académie argentine des lettres et ancien directeur de la Bibliothèque nationale argentine. En voici la deuxième et dernière partie.
On va continuer à parler un peu de géométrie telle que ça a pu se développer. Après la théorie des géométries non euclidiennes. D'abord, évidemment, la notion de géométrie non euclidienne a fasciné aussi dans ce qu'elle permettait d'imaginer des mondes qui seraient complètement différents d'une autre, ou de se poser des questions telles que, après tout, quelle est la forme de notre univers ? Quelle est la géométrie dans laquelle nous vivons ? Au plan scientifique, le plus célèbre de ces développements, sans conteste, a été la théorie de la relativité générale, la grande œuvre d'Einstein. C'était dans les années 1915. À l'époque, Einstein l'a développée avec la plus grande sophistication disponible. C'est de cette époque que date sa fameuse dans laquelle il dit qu'il pensait que les mathématiciens coupaient les cheveux en quatre et se donnaient bien du mal avec une sophistication qui n'avait pas grand intérêt. Il devait finalement réviser son jugement et admettre que la plus grande sophistication mathématique était nécessaire pour sa théorie. Il avait été initié en particulier au développement de la courbure de Ricci, qui allait devenir la pierre angulaire de sa théorie de la relativité générale. Ce faisant, accomplissant ce qui était en partie l'un des rêves de Bernard Riemann, l'idée que, en définissant les bonnes règles mathématiques, les bonnes règles de géométrie, on en viendrait tout naturellement à trouver des lois physiques qui seraient comme naturellement conséquence du formalisme mathématique. Parmi les prédictions d'Albert Einstein, il y avait cette idée que le temps s'écoule différemment en fonction de la géométrie, en fonction de la répartition de la masse, que, bien sûr, le trajet des rayons lumineux varie aussi selon la répartition de masse, selon la géométrie de l'univers en général. Le fait qu'on ne puisse pas séparer la géométrie de la masse, justement, on a l'habitude depuis Newton de se dire nous sommes des êtres de matière habitant un espace immatériel qui est fait avec différentes dimensions. Et Einstein nous dit non, tout cela fait partie d'un ensemble qui interagit les uns avec les autres. La distribution de matière courbe l'univers, la courbure de l'univers influe sur la façon dont les objets s'attirent les uns les autres. La plus spectaculaire, sans doute, l'une des plus spectaculaires à coup sûr, manifestation de cette théorie einsteinienne, a été l'observation des ondes gravitationnelles. C'était il y a 3 ans maintenant, c'était en 2016. Fort opportunément, c'était quasiment un siècle exactement après la formulation de la théorie de la relativité générale. Et de façon ironique, c'était la meilleure confirmation de l'existence d'un objet auquel Einstein n'a jamais vraiment cru, les trous noirs. Et on avait là aussi un problème qui était une question fondamentale de géométrie, une question fondamentale de physique. J'en profite, puisque je l'évoquais déjà, pour faire la publicité du bel ouvrage écrit par Étienne Klein sur Albert Einstein. C'était comment le pays où habitait Albert Einstein, et qui nous parle aussi des émois géographiques d'Einstein habitant dans un pays, dans l'autre, dans tous à la fois, dans aucun, au fur et à mesure des évolutions scientifiques et politiques. Quand une onde gravitationnelle se manifeste, qu'est-ce qui se passe? C'est un vrai problème de géométrie, l'espace et le temps mêlés. L'onde, c'est une perturbation des choses qui se propagent, de la même façon que quand vous avez une corde, vous tenez la corde avec un collègue et vous faites un mouvement d'agitation de la corde et vous voyez ces ondulations qui avancent, qui se propagent tout en restant plus ou moins égales à elles-mêmes. Quand l'onde gravitationnelle arrive, vos distances, votre taille, la taille de tout ce qui vous entoure est diminuée, puis augmentée, puis diminuée, puis augmentée. Juste le temps que passe l'onde. Il ne faut pas croire que ce soit très spectaculaire comme phénomène. La taille dont vous êtes augmentée ou diminuée, c'est de l'ordre du millième de la taille d'un proton. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment petit. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on soit arrivé à détecter ce genre de choses. Un triomphe de l'interférométrie. Rien que le dispositif expérimental, il a fallu un demi-siècle entre sa conception, sa validation, l'observation. Des déluges aussi d'astuces pour observer, détecter ce genre d'ondes à travers les colossales masses de données qui étaient récoltées par l'observation des grands observatoires géants comme LIGO et Virgo, l'un en Europe, l'autre aux États-Unis. Et phénoménal aussi, c'est la précision entre l'adéquation entre le signal observé, la forme qu'avait l'onde, et ce qui avait été prédit par les théoriciens, avec un mélange de spécialistes de différents horizons, physiciens, mathématiciens, physique théorique et physique expérimentale et tout ce que vous voulez. Une personne familière de cette fondation qui a joué un rôle important était Thibaut Damour de l'Institut des hautes études scientifiques. Enfin bref, les théoriciens avaient prédit la forme qu'auraient ces oscillations en fonction de l'événement, et on a pu observer que ce qui a été observé coïncider exactement avec ce qui était prédit dans le cas de la collision de deux trous noirs avec des masses bien supérieures à celles du Soleil qui se seraient produites il y a quelques milliards d'années. Vous imaginez, dans cette histoire, tout est invraisemblable. Imaginez qu'on peut détecter une variation de taille qui est de l'ordre du millième de la taille du proton. Imaginez qu'on puisse l'identifier comme étant un phénomène qui s'est produit il y a des milliards d'années, mettant en jeu la collision de deux êtres aussi extravagants que des trous noirs, chacun pesant bien plus que le Soleil. Tout ça dépasse l'entendement. La beauté de la mathématique, c'est que justement, ça va s'appliquer très au-delà des domaines que l'intuition peut cerner. Au début, tout part de l'intuition. La géométrie des Grecs anciens, comme celle qui a été construite par Riemann, comme celle qui a été construite par Einstein, part d'observations simples, d'observations de la vie courante, s'occupe de les abstraire, d'en faire des formules, d'en faire des choses précises que l'on peut généraliser jusqu'à les appliquer très au-delà du domaine qui est accessible à notre imagination et à notre intuition. Donc ça, ça faisait partie de tout ce mouvement pour appliquer les géométries non euclidiennes dans leur raffinement à l'espace qui nous entoure. Et puis, et vous voyez ici, ce sont des trésors de précision, de sophistication, dans lesquels il ne s'agit pas de faire la moindre micro-erreur, si vous me permettez, si vous me passez l'expression. Et puis, dans une direction radicalement différente, avec des personnes radicalement différentes, nous avons vu au XXe siècle bien d'autres personnes s'approprier ou tenter de s'approprier le langage de la géométrie non euclidienne et les images de la géométrie non euclidienne pour décrire des situations beaucoup plus floues, des situations venant des sciences humaines et sociales, venant de la psychologie. Quelqu'un comme Lacan s'est lancé dans toute une réflexion sur les façons de représenter en géométrie des situations humaines, des relations des individus, des psychologies. Et ici, on voit un usage tout à fait différent de la géométrie. Non pas comme façon de prédire les choses si précisément, mais comme un support de l'intuition. Quelqu'un qui est à l'honneur ici, comme Lévi-Strauss, Triste Tropique et toutes ses œuvres, utilise aussi des langages de l'algèbre, de la géométrie, vu comme la façon dont les objets sont positionnés les uns par rapport aux autres pour décrire des structures familiales, des relations entre les individus d'une famille, d'une tribu ou ce que vous voulez. Et ici, on voit une toute autre direction dans laquelle les concepts, les représentations, les intuitions nées de la volonté des mathématiciens de mettre au point des objets, des concepts qui représentent le monde, peut être recyclé, approprié, réutilisé dans un contexte fort différent qui nous renvoie à quelque chose de beaucoup plus intuitif.
Vous disiez donc que la géométrie au service de l'intuition, il est vrai, et je reviens à cette magnifique exposition, je reviens aux Aymara, je m'excuse, je mentionnais le Paraguay, c'est pas du tout ça, c'est la Bolivie et le Pérou. Peut-être les Aymara regarderaient la géométrie contemporaine comme une confirmation de quelque chose qu'ils savaient déjà. Parce que, par exemple, si nous prenons la théorie d'Einstein, moi, je suis très incapable de parler d'Einstein comme l'a fait Cédric. Mais les Aymara, dans leur langue, ont une conception du temps tout à fait autre que la nôtre, par exemple en français, en anglais, en espagnol. Ils conçoivent le temps venant du futur et allant vers le passé. Et l'identité de chaque individu est placée dans ce fleuve qui va vers le passé. Et ils regardent vers le passé comme nous disons que nous regardons vers le futur. Évidemment, parler de futur, présent, de passé, parler de gauche et droite et tout ça, ça n'a aucun sens dans l'univers qui n'a pas, Cédric vous le dira mieux que moi, cette conception qui sont tout à fait les nôtres humaines. Mais pour revenir aux Aymara, il regarderait par exemple le Big Bang comme une autre version de la théorie du commencement du monde, qui est la rencontre explosive entre deux divinités, une de l'ombre et l'autre de la lumière, qui ensemble explosent pour créer le monde. Borges, parce qu'il faut toujours parler de Borges, avait un énorme intérêt pour les mathématiques. Et dans beaucoup de ce texte, c'est les mathématiques et surtout la géométrie qui est à la base de ces fictions. Je vais parler deux minutes d'une seule, parce que nous n'avons pas le temps, mais un récit écrit dans les années 30, recueilli dans le volume Fiction, prétend être un essai sur l'écrivain anglais Herbert Quain, examen de l'œuvre de Herbert Quain. Eh bien, ce que fait Herbert Quain est utiliser la géométrie pour dire: on ne peut pas écrire un roman, on ne peut pas raconter une histoire. Une histoire se place comme une variation d'une autre histoire. Et donc, il fait une sorte d'embranchement d'histoire. Histoire, Borges fait un petit schéma, histoire commence par la X1 qui donne Y1, Y2, Y3, ça il le réduit à un système binaire, mais ça commence par un système tertiaire. Et Y1 donne Z1, Z2, Z3. Chacune de ces lettres et ces numéros est une variation de l'histoire initiale. Et donc, si dans la première histoire, deux hommes se rencontrent, parlent de ce qu'ils ont fait dans la journée, Z1 va raconter la journée précédente. Z2 va raconter une autre journée précédente, et ainsi de suite. Borges montre comme regarder la fiction d'un point de vue géométrique et réduire l'invention littéraire à un système où tout est possible parce que tout a déjà été imaginé. On ne peut pas, Borges dit, imaginer une histoire hors de ce schéma. Vous disiez Madame Bovary, vous disiez Jacques le fataliste et son maître, vous disiez Hamlet. Eh bien, c'est contenu dans ce système de Herbert Quain. Et voilà l'hommage que Borges fait à la géométrie.
Il y a cette grande question de ce que c'est que le temps et comment on doit le représenter. Et comme le disait Alberto il y a quelques instants, chez les Aymara, on regarde vers le passé, on regarde vers le futur. Peut-être que c'est une façon circulaire de voir le temps. On apprend à l'école aujourd'hui davantage cette idée que le temps, c'est comme une droite avec le passé, le futur et un sens qui est très clairement donné. Il ne faut pas croire que ce soit la seule façon géométrique de représenter le temps qu'on a, ou la seule façon de concevoir le temps qu'on a en science. Cette notion du temps qui se déplace linéairement est devenue très importante historiquement quand on a voulu représenter les phénomènes avec des équations différentielles. C'était la grande aventure scientifique du XVIIe siècle. Arrive Newton, arrivent des gens comme Huygens, comme Leibniz, qui nous disent le monde peut se comprendre avec la résolution d'équations différentielles dans laquelle le temps joue un rôle fondamental. Il y a la tendance, la dérivée par rapport au temps, et les objets sont dans un espace à trois dimensions qui est donné. Et donc on a les trois axes correspondant à l'espace, un axe correspondant au temps si l'on veut, et ce temps est bien particulier. Mais il y a aussi d'autres notions. Je vous parlais tout à l'heure de cette idée du temps qui est mélangée avec les autres dimensions dans la géométrie d'Einstein, dans l'espace-temps d'Einstein, est effectivement une représentation qu'on va faire dans ces théories où il y aura quatre dimensions, le temps et l'espace, et toutes les quatre courbées ensemble, et sauf à faire des tranches, on ne peut pas parler du temps séparément des autres. Et dans ce domaine-là, les gens, quand ils vous font des théorèmes sur comment on résout les équations dans le monde de la relativité générale, ils ne parlent pas de ce qui se passe à l'instant initial. Ça n'a pas de sens, l'instant initial. Ils se donnent une tranche, si l'on veut, dans l'espace-temps qui correspondrait à des conditions initiales. Un peu comme si on disait, sur une sphère, on prend l'équateur qui est une tranche parmi d'autres possibles et on regarde comment prolonger ce qu'on se donne sur cette tranche. Mais aussi, dans certaines branches de la physique théorique, on se retrouve avec des représentations de l'espace avec beaucoup plus de dimensions encore et des choses beaucoup plus complexes. Michel Cassé, qui est ici présent, pourrait nous en donner quelques exemples, mais il y a eu des représentations de l'espace avec beaucoup plus de dimensions que quatre, des représentations dans lesquelles certaines dimensions étaient de forme circulaire ou comme un tore, comme on dit, un peu comme ce que disait Alberto, et dans lesquelles la façon que nous avions de les voir plats venait soit de ce que cette boucle était tellement petite qu'elle disparaissait de l'observation, soit de ce que ça était tellement grande qu'on n'en voyait qu'une partie qui ressemblait à quelque chose de plat. Et puis, il y a aussi eu des théories du temps basées sur la statistique. Ça, c'était le credo de Ludwig Boltzmann avec l'apparition de la théorie atomique au XIXe siècle. Boltzmann démontre que spontanément, la matière a tendance à s'organiser d'une façon telle que l'entropie, le désordre augmente avec le temps. Et après, dit, mais après tout, est-ce que le temps, ce n'est pas par définition la direction dans laquelle augmente l'entropie ? Et que si ça se trouve, il y a des endroits dans l'univers dans lesquels le temps va à reculons, des endroits dans lesquels il est fluctuant, le temps s'écoule dans un sens, dans l'autre, selon l'état de désordre dans lequel est cet univers.
Si j'interromps pour dire tout simplement que Borges, toujours, avait pensé à cela, cette idée que le temps est la direction dans laquelle les choses sont détruites, se détruisent. Et Borges a fini son magnifique essai sur la négation du temps en disant « Le temps est un tigre qui me dévore, mais je suis ce tigre. Le temps est un feu qui me consomme, mais je suis ce feu. Malheureusement, le temps est réel et malheureusement, je suis Borges. »
Le temps est un tigre qui dévore. Alors, il y a encore bien les théoriciens, les experts de physique théorique actuellement vont vous dire que la nature profonde du temps reste un mystère pour eux par certains côtés. Et s'il faut se le représenter comme quelque chose de continu, quelque chose de granulaire, quelque chose qui est donné a priori ou quelque chose qui émerge de la complexité, un peu comme nous sommes faits d'atomes, mais nous n'avons pas besoin de nous représenter les atomes pour nous représenter des êtres humains. Nous nous voyons comme une structure qui émerge de cette nature atomique. Et tout ça, ce sont des spéculations reposant sur des fonds mathématiques et physiques sophistiqués. J'aimerais revenir aussi un petit peu sur la question maintenant, revenir sur des choses plus subjectives de la façon dont nous, on se repère dans l'espace, dans le temps. Et on sait bien que d'un côté, il y a la géométrie telle qu'elle est donnée, telle qu'on peut la mesurer, et d'autre part, nous, ce qu'on ressent, les impressions visuelles, les impressions de nous par rapport aux autres, quant à savoir où on est, et ainsi de suite. Et qu'il peut y avoir une grande différence entre ce qui est et ce qu'on perçoit. On le voit déjà dans le phénomène des illusions d'optique, qui sont extrêmement étudiées par les spécialistes de la conscience. Vous les avez vues, vous les connaissez. Vous avez ces droites qui sont parallèles avec des hachures. Le simple fait que les hachures soient là donne l'impression que les droites ne sont pas parallèles. Bien sûr, quelque chose d'extrêmement naïf de se dire que ce que le calcul va donner, c'est ça l'impression ou le sentiment que ça va faire. Et on peut se poser la question aussi de le mettre en concept, le mettre en mots et se faire une théorie, si on veut, de la géométrie telle qu'elle est perçue, telle qu'elle est conçue. Et là, c'est par certains côtés, à la fois c'est beaucoup plus vague et ça n'a pas besoin d'être aussi précis que la géométrie quantitative telle qu'on la connaît, mais en même temps, on se retrouve rapidement dans des trésors de complexité, de difficulté. Et puis, se pose la question de comment c'est influencé, pas seulement par notre perception, mais par notre culture, notre façon de vivre, notre milieu. Et je vais faire le lien avec une des aventures que j'ai vécues avec Hervé Chandès l'été dernier, avec Hervé et quelques autres de ses collègues de son gang, on va dire. Nous étions en visite dans le Chaco, la partie ouest du Paraguay, à la rencontre d'artistes des ethnies Ayoreo, Nivacle. Et on a eu l'occasion de discuter, d'échanger sur la façon dont les uns et les autres voyaient le monde. Et puis, Hervé m'a aussi fait rencontrer des experts en anthropologie, des gens qui s'intéressent à la façon dont on voit le monde dans les cultures indiennes, en particulier un Eduardo Villarroel de Castro et quelques autres, et insistant sur ce fait que on ne voit pas le monde selon qu'on est dans une culture de chasseurs-cueilleurs ou selon qu'on est dans une culture sédentaire, agricole, telle que nous, on la connaît. Avec d'un côté l'idée que nous sommes des êtres différents dans un univers commun, et de l'autre côté, l'idée que les êtres sont tous connectés, tous identiques les uns aux autres, avec un monde qui va changer. Et cela étant connecté peut-être à la... C'était les spéculations des uns ou des autres.
Il y a deux autres possibilités.
Vas-y, Alberto.
Que nous sommes tous différents dans un monde qui est toujours différent, et nous sommes tous égaux dans le monde qui est le même.
Voilà, alors, et justement, Villarroel de Castro, il s'occupait de faire toutes sortes de classifications comme ça et voir dans quelle situation telle ou telle chose peut s'appliquer et à quoi ça correspond. Et on peut argumenter que la situation où on est tous différents dans un univers tous différents, c'est aussi un peu celle qu'on est en train de vivre maintenant avec la démultiplication qui se fait de par les réseaux sociaux. Hélas, où on est là et en même temps on est à 10 autres endroits différents avec des boucles de conversation différentes. En quelques secondes, selon qu'on passe de l'un à l'autre, on se retrouve les uns, on se retrouve avec les autres. Et là, c'est comme une nouvelle géométrie, si on veut, cognitive, dans laquelle on se retrouve, où on est dispersé, désincarné.
Je vous raconte pour vous dire une anecdote. Je ne pense qu'à une anecdote. Northrop Frye, le grand critique canadien, se trouvait dans le nord du Canada, au pays Inuit. Et tout à coup, il se rend compte que son guide va à gauche, à droite, il ne sait pas où aller. Et Northrop Frye lui dit « Mais nous sommes perdus !» Et lui guide le regarde avec étonnement et lui dit « Mais nous ne sommes pas perdus, nous sommes ici. »
C'est comme c'est... Voilà, il y a des dessins humoristiques dans lesquels on se retrouve, pareil, au milieu du désert, avec un panneau qui vous indique « Vous êtes ici !» Mais c'est cette idée. Qu'est-ce qu'on doit considérer comme référentiel? Est-ce que le référentiel, c'est quelque chose de commun, un espace qu'on partage les uns les autres, où j'ai mon territoire, ton territoire, son territoire? Ou est-ce que le référentiel, c'est moi, nomade, dans un univers qui se déplace, où que j'aille, je suis toujours moi, et c'est comme si le monde se transformait. On sait comment, dans certains domaines précis des sciences, ce passage des points de vue de l'un à l'autre peut être fructueux. En mécanique des fluides, c'est l'une des choses qu'on vous apprend au tout début. Il y a deux façons de faire de la mécanique des fluides. On les appelle de façon impropre lagrangienne et eulérienne. Dans le point de vue lagrangien, vous imaginez que vous êtes une particule et vous suivez le courant et vous intéressez aux différentes particules qui chacun suit sa ligne de courant. Et dans le point de vue eulérien, vous fixez un endroit et vous regardez le courant passer. Et dans un cas, la description est en termes de trajectoire. Dans l'autre cas, la description est en termes de champ de vitesse. Et les allers-retours au plan technique font partie des techniques et du bagage très important making et fuite, mais aussi en géométrie. Une partie de mon travail en géométrie s'est fait dans cet aller-retour entre point de vue lagrangien et point de vue eulérien, mais aussi du point de vue subjectif, à travers les exemples qu'on citait, on peut voir ces deux points de vue comme sous-jacents à notre façon préférée de se représenter la géométrie à la fois de notre univers et de nos relations avec nos semblables.